Faire un pas de côté pour mieux avancer pourrait bien être la devise de courir un trail. Bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui mène l'interview. Et non, ce n'est pas un coureur qui prend la parole non plus. Cependant, c'est un être tout à fait intéressant. On va parler de flow, de résilience, d'antifragilité, de la vie, des emmerdes, des routines. En fait, la course à pied, c'est comme la vie. Faut gérer l'adversité, la météo, la fatigue, les cailloux de la chaussure, nos excuses, nos freins, nos limites. Et du coup, quoi de mieux qu'un instructeur de survie pour nous parler de la vie? Qui a dit que la survie, c'est un état dégradé de la vie? Et si c'était justement la vie au plus simple, la survie? Sujet philosophique pour la prochaine sortie longue. En attendant, écoutons ce montagnard aux accents québécois. Petite note, n'ayant pas de don d'ubiquité, la journaliste est une amie qui a passé quelques jours chez lui. Ça ne peut pas vous faire de mal, je pense, d'entendre une autre voix que la mienne. Allez, on y va!
Bonjour David Méliz.
Bonjour.
Merci de consacrer un peu de temps pour courirentrail.fr. Donc tu es instructeur de survie, fondateur du forum Vie Sauvage et Survie et du CETS, auteur et traducteur d'ouvrages chez Amphora et aujourd'hui tu t'es lancé dans une activité de coaching, formation et auto-hacking avec Trovolution. Sur courirentrail.fr, on cherche à encourager les gens à vivre des aventures, à remettre du piment dans leur quotidien et à reprendre confiance en eux et dans leurs capacités naturelles. Pour cela, des portraits de personnes inspirantes sont régulièrement proposés. Or, le vent qui souffle à travers les montagnes me chuchote que tu pourrais bien en faire partie, David. Qu'est-ce que ça fait d'être toi? Et ça veut dire quoi, d'abord, d'être toi?
Alors, déjà, ouais, on a lancé avec Aurélie, ma chérie, une activité de coaching et puis de stage qui sont plus axés, j'aime pas le mot, mais développement personnel. On aime bien la notion de anti-développement personnel parce qu'on part du principe qu'il n'y a pas grand-chose à développer, il faut juste enlever un peu les couches de conneries qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Mais ouais, ce que ça fait d'être moi, ben, je sais pas, rien de spécial, j'ai envie de dire. Mais j'aime bien. Voilà, donc je suis content de répondre à cette interview, c'est cool. Je trouve que les questions, vu que je les ai lues à l'avance, elles sont vachement intéressantes. Du coup, ben voilà, c'est parti, quoi.
Ok. La vie, ça fait mal et à la fin, on crève. C'est une phrase qui vient de toi, je crois. Qu'est-ce que ça veut dire? Le prince charmant n'existerait donc pas?
Alors non, c'est pas de moi. Cette vie-là, elle vient d'Alain Berisville, qui est un pote qui est colonel dans l'armée suisse. On a tendance dans nos sociétés, en fait, à chercher le confort et à chouiner dès qu'on le perd. Et puis ouais, cette phrase, elle veut surtout dire que ben en gros, faut s'habituer un peu à l'inconfort et puis accepter à un moment donné que tout connement ben l'adversité, elle existe. À la fin, on va tous crever et entre-temps, ben faut un peu choisir ce qu'on en fait de ce petit moment d'existence, quoi. Donc ouais, c'est une phrase qui est un peu pour but de péter la bulle d'illusion des petits flocons de neige merveilleux et uniques et de les remettre un peu dans la réalité. Donc ouais, la vraie phrase, c'est la vie est injuste et à la fin on crève. Et ouais, c'est injuste. L'injustice, c'est un truc qui est dur à accepter et puis c'est quand même vrai, la vie c'est vraiment injuste. Il n'y a pas de justice, la vie elle n'est pas juste. Et vraiment, à la fin, on va tous crever. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez négocier avec vous-même, mais globalement, c'est quand même vrai, quoi.
D'accord. Tu as écrit un livre sur la méthode Wim Hof, traduit un livre sur la méthode Wim Hof, écrit par Carnet, et un livre sur les secrets de vos super-pouvoirs de Kotler. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes tous des super-héros, et dans le cas où on serait tous des super-héros, c'est quoi notre kryptonite, du coup?
Ouais, le bouquin sur les super pouvoirs, il parle du flow. En fait, le flow, c'est un état de conscience un peu modifié qu'on vit et qu'on touche quand on est sous stress de survie. quand on est dans un environnement hyper imprévisible, hyper complexe, hyper changeant, etc., etc. On l'a tous déjà vécu dans des moments où, par exemple, juste avant une gamelle en vélo ou un accident de voiture, d'un coup tout se met au ralenti, on a l'impression de percevoir beaucoup plus de choses que d'habitude, on traite plein d'informations. Et ça a lieu en fait quand notamment le cortex préfrontal se déconnecte et on se met à arrêter de penser de manière linéaire, on se reconnecte vraiment à un mode de fonctionnement hyper... mode de traitement d'informations en fait, hyper parallèle et qui passe beaucoup plus par le corps et puis par tous les sens. Et du coup, ça économise l'énergie de cerveau pour faire des trucs utiles, quoi. Si je résume, c'est un peu ça l'idée du flow. C'est un truc qu'on touche régulièrement dans plein de situations où le mental ordinaire, linéaire, suffit pas à traiter toutes les informations qu'on a à gérer. C'est des états qu'on peut toucher aussi en méditation, c'est des états qu'on peut toucher dans le sport, dans le mouvement, quand on fait des katas, quand on fait plein de trucs. Et de base, c'est un état qui nous rend heureux en fait et qui nous facilite le fait de créer du lien. Et du coup ça nous manque dans nos sociétés hyper mentalisantes, hyper dans le mental et hyper dans le contrôle et hyper dans l'analyse, et souvent déconnecté à la fois du danger et du corps. Dans tout ce qui ne nous tue pas, on parle un peu de la même chose en fait, c'est du fait que l'adversité, de l'inconfort et du froid, des courses d'obstacles, enfin de plein de trucs, parce que ça parle pas que de la méthode Wim Hof en fait, ça parle aussi de globalement cette espèce d'inconfort ou d'adversité qui nous fait du bien, pour laquelle on est programmé, pour laquelle on est fait pour à laquelle on est fait pour ouais, pour en tirer parti, pour en tirer profit quoi. Et je pense que si on a une kryptonite dans la société, ben c'est à la fois le confort, l'excès de confort en fait, et cet attachement qu'on a à ce confort là et aussi l'excès de mental qui veut protéger ce confort-là. Et on cherche à analyser en permanence et à catégoriser et à trier de manière linéaire et hyper analytique toutes les choses. Je pense qu'on est plus heureux à gérer des problèmes concrets ensemble qu'à devoir gérer des problèmes abstraits qui sont pas des vrais problèmes en fait, qui sont que des problèmes théoriques. Exemple, est-ce que je vais pouvoir changer de bagnole, est-ce que je vais avoir une augmentation. C'est des problèmes abstraits et on les gère de manière individualiste en étant un peu dressés les uns contre les autres en fait. Et ça nous convient pas. Du coup, je trouve que ouais, de se reconnecter au concret en passant par le corps, en quittant un peu le mental et l'analyse et la suranalyse, ça nous fait beaucoup de bien. Et l'inverse, ben, c'est ça notre kryptonite à mon avis.
D'accord, ok. Tu proposes dorénavant un stage antifragile. Qu'est-ce que c'est déjà, et puis pourquoi aurait-on aujourd'hui besoin d'être antifragile?
Alors c'est pas je propose, c'est on propose
avec Aurélie
parce qu'elle fait elle a vraiment un apport méga intéressant dans ce stage et dans tous les trucs qu'on fait à deux. C'est vachement mieux avec elle en fait.
Donc Aurélie Verdon,
donc pour Aurélie Verdon, exactement,
complètement.
Le stage antifragile, c'est concrètement, c'est un stage qui se base un peu là-dessus, en fait, sur ce que je viens de dire à propos de l'adversité. C'est un stage qui a pour but de nous aider à développer notre capacité à profiter de l'adversité. C'est une capacité qui est innée, notamment pour le corps, mais pour notre esprit, c'est pas si évident. Et il nous arrive toujours des trucs trash dans la vie, parce que la vie est injuste et à la fin on crève. Et qu'est-ce qu'on en fait en fait de cette injustice, comment on peut l'utiliser plutôt que de la subir. Et du coup on se rend compte que c'est pas si injuste au final, ça nous fait avancer, ça nous fait évoluer, ça nous fait grandir. D'ailleurs, Trovolution, bah c'est évolution en fait à la base, c'est vraiment à la fois le love à l'envers et l'évolution. Et ouais, cette adversité, elle est absolument, enfin, elle est pas indispensable à l'évolution, mais elle est vraiment super importante et elle permet Si on sait s'en saisir et si on a les outils qu'il faut de vraiment grandir plus vite, évoluer plus vite, pour devenir plus vite une version améliorée ou différente de nous-mêmes, une version qui est plus conforme à qui on est vraiment en fait. Parce qu'au final, l'adversité, elle vient surtout attaquer des points de nous qui sont pas vraiment nous en général. C'est pas nous en profondeur de s'attacher au confort, c'est pas nous en profondeur de s'attacher à un modèle culturel, c'est pas nous en profondeur de s'attacher à qui on a envie d'être ou de paraître. C'est pas ça nous. Nous, c'est quelque chose de beaucoup plus simple et à la fois beaucoup plus profond que ça, et qui est beaucoup plus en lien aussi avec avec les autres et avec notre environnement. Et ce stage, en fait, il vient en bonne partie, il n'y a pas que ça, mais une des grosses composantes, c'est de venir nous expliquer comment voir où ça frictionne en fait entre nos bouts d'ego dysfonctionnels et la réalité, pour détecter ces bouts d'ego-là dysfonctionnels et puis pouvoir s'en... pas forcément s'en détacher parce qu'ils restent toujours plus ou moins présents, mais les voir mieux et pouvoir les utiliser eux aussi plutôt que de les subir. Donc si je résume ce que c'est l'ego, ben l'ego c'est la somme de tous nos automatismes. C'est un peu un automatisme de réagir quand on perd quelque chose de manière à être frustré, à être triste, je sais pas quoi, à vouloir s'accrocher, à vouloir pas l'avoir perdu et à devoir faire tout un processus de deuil. Le stage antifragile, il a pour but de faciliter ça en fait. Et de pouvoir voir les bouts d'ego qui piquent et utiliser leur énergie plutôt que de les voir gouverner notre vie. Si je résume, c'est un peu ça l'idée.
D'accord, donc c'est une manière quelque part de court-circuiter un peu le système en place de base.
Ouais, et puis surtout de l'utiliser en fait. Quand je suis fatigué aujourd'hui, je pense à un truc qui me met en colère et j'ai de l'énergie. Ça, du coup, j'utilise mes automatismes, j'utilise mes modèles culturels de justice, d'injustice, de machin, de trucs, pour générer de l'énergie. Pour générer de l'adrénaline, etc. Puis utiliser cette colère-là comme source d'énergie. Puis après, je la redirige. Parce que c'est pas ma colère qui va décider ce que je fais, c'est moi. Et du coup, ben cette colère-là, elle devient juste une source, elle devient un outil que j'utilise, ni plus ni moins.
D'accord.
Bon, j'y arrive pas toujours. Hein. Des fois, je suis énervé et puis je fais de la merde comme tout le monde. Mais le but et l'outil antifragile, c'est ça, l'idée, globalement quoi.
D'accord. Donc c'est du recyclage en fait quelque part.
Ouais, et puis c'est du hacking d'automatismes quoi. C'est voilà, je vois comment mes automatismes fonctionnent dans le détail. Une fois que j'en ai fait le tour, je comprends bien comment ça fonctionne, qu'est-ce qui les active, sur quel bouton appuyer. Là, je peux les utiliser plutôt que ce soit eux qui m'utilisent. Enfin, c'est jamais vraiment eux qui m'utilisent, mais quelque part, étant donné que c'est eux, c'est un automatisme qui va faire que je vais décider de péter la gueule à un type plutôt que de faire mes projets, admettons. Bah c'est plus moi qui gouverne, c'est plus moi qui est maître à bord de ma vie, ça devient ma colère en fait. Donc quelque part, métaphoriquement, c'est ma colère qui m'utilise. Et donc le but, c'est justement de gagner en liberté en fait, à travers ça. De voir la colère, puis de décider d'en faire quelque chose. De voir la masse d'énergie que c'est, de l'utiliser à faire, de l'attribuer à un projet qui nous plaît vraiment et qui a vraiment du sens pour nous, qui est conforme à nos valeurs, à qui on est, à qui on veut devenir, etc.
D'accord. Du coup, pour toi, avec tout ce que tu viens de me partager, quelle est du coup une bonne hygiène de vie ? Est-ce que tout ça rentre en compte dedans ? Comment ça s'organise ?
Bah, une bonne hygiène de vie, c'est une hygiène de vie qui permet de gagner en liberté, en fait. Une discipline qui va permettre de gagner en liberté au lieu de juste être gouverné par tout ça. Gagner en liberté, ça veut dire avoir un corps qui fonctionne bien. Ça veut dire avoir une bonne hygiène émotionnelle et savoir comment utiliser sa colère, sa tristesse, sa peur, son chagrin, ces trucs-là. Comment en tenir compte dans nos vies, comment remettre de l'harmonie dans le fait d'avoir des émotions qui sont des fois fortes. De bien le vivre, ne pas, en plus de l'émotion forte, avoir une espèce de tension de ben, je devrais pas vivre d'émotions fortes, d'être ok en fait avec les émotions, puis leur mouvement et puis leur saison et tout ça, ça fait partie de la nature, en fait, ça va, ça vient, il y a des saisons, ça bouge, un jour c'est l'hiver, on n'a plus de feuilles, et puis on doit se regrouper un peu dans nos racines, et après le printemps revient, et puis d'un coup il y a des fleurs, et puis d'un coup il y a des feuilles, et puis après ça retombe, et puis c'est de nouveau l'hiver, et puis c'est... Ça fait partie de la vie, en fait, d'avoir des émotions, des fois hyper intenses, puis des fois plus douces, et des fois d'être dépassé, et puis des fois pas, et puis... Il y a un moment donné, une espèce de quiétude à avoir par rapport à tout ça, et en même temps, ben de, comme le but c'est de rester le plus libre possible et de devenir le plus libre possible, pour moi en tout cas, ben, la discipline ou l'hygiène de vie qu'on a va nous permettre de gagner en conscience et en connaissance de soi, de manière à voir nos automatismes émerger, de pouvoir les rediriger ou les utiliser, de ne pas les activer quand c'est pas nécessaire, désactiver quand c'est nécessaire. Bref, de pas être con, quoi.
D'accord. Et du coup, j'ai deux questions par rapport à ça. Tu parlais il y a deux minutes de discipline. Du coup, qu'est-ce que tu entends par discipline? C'est quoi pour toi? Comment ça se construit? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait?
Concrètement, tu veux dire?
Ouais, et pas, d'ailleurs.
Bah, pas concrètement, c'est un peu ce que je viens de dire. C'est gagner en liberté. Par la connaissance de soi, pardon. Concrètement, ben, il y a 10 000 outils différents qui vont permettre d'y arriver. Ça va du travail de type méditation pour centrer le mental et redevenir maître de ses pensées et de son mental. Au moins du mental automatique. Une espèce de singe araignée qu'on a au fond de la tête qui fait un peu ce qu'il veut quand il veut et puis qui comme le reste de notre ego, agit de manière automatique. Et puis, le soumettre peu à peu à notre volonté, et de penser à ce qu'on veut quand on décide d'y penser, en fait, par exemple. Ça peut être un travail corporel qui va nous amener à comprendre pourquoi on a mal au dos, quels sont les liens entre les émotions et le mal de dos, et les émotions et la tension musculaire sur telle chaîne musculaire, qui va faire ci, qui va faire ça. De se connaître de mieux en mieux dans tous les aspects de nous-mêmes. Et en fait, face à une situation désagréable, par exemple, j'ai mal au dos, j'ai deux options. Enfin, j'en ai plusieurs, en fait, mais j'ai deux types d'options principaux. Il y a j'ai mal au dos, je veux que ça s'arrête. Et chouiner que c'est trop injuste et que j'ai mal au dos, c'est chiant et machin. Il y a l'option... Je vais m'anesthésier, je vais bouffer des cachetons, ou je vais picoler, ou je pense à autre chose, pour éviter la sensation désagréable. Et il y a l'option, je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai mal au dos, qu'est-ce qui fait que j'ai mal au dos, comment ça marche un mal de dos, de me renseigner, de voir que, en fait, mon mal de dos, il est dû à, je sais pas, une hyperlordose, qui est causée par un raccourcissement de ma chaîne arrière, qui elle-même est facilitée par... une petite faiblesse au niveau des psoas qui font partie de la chaîne avant, et tout ça parce que j'en sais rien, parce que j'ai fait trop de manutention et soulevé trop de trucs lourds et jamais d'abdos pendant toute ma vie. Ça, c'est le coup classique, quoi. L'autre coup classique, c'est j'ai mal au dos parce que mes psoas sont contractés, parce que je passe ma vie assis. Et du coup, quand je me relève, ça tire sur mes lombaires. Il y a tout plein de facteurs et de paramètres dans notre corps qui peuvent créer du mal de dos. Et de chercher la cause de notre mal de dos à nous, donc de profiter du fait d'avoir mal au dos pour comprendre et apprendre, c'est une troisième manière de faire qui permet de gagner en connaissance de soi. Et qui permet du coup d'avoir davantage prise sur soi-même et pouvoir s'auto-hacker, en fait. Pouvoir pirater son propre système quelque part. Pour faire ce qu'on veut, donc gagner en liberté, quoi. Donc voilà, la discipline, ça revient toujours à ça, mais d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour le mental, le corps, les émotions, peu importe, et puis ça se décline à l'infini. Après, le jeu, c'est de prendre un truc qui nous pique, un truc qui nous plaît pas, et de voir pourquoi, comment ça fonctionne, comment ça marche, et d'en tirer des actions concrètes.
Alors David, qu'est-ce que c'est pour toi une bonne hygiène de vie?
Alors, reprise dans la voiture suite à la coupure technique.
On est le lendemain et je suis en train d'amener Emilienne à la gare et donc il y a du bruit, c'est moins optimal et je suis en train de conduire donc vous m'excusez à l'avance si je bafouille un peu et si de temps en temps il y a un accident. Donc une bonne hygiène de vie pour moi c'est une hygiène de vie et une discipline qui va permettre d'utiliser l'adversité comme source d'information pour évoluer. En gros, il m'arrive toujours des couilles dans la vie, c'est normal, on peut pas vraiment les éviter. Et on se retrouve à soit pouvoir chouiner et dire « Non, j'ai pas envie que ce soit comme ça, la vie est trop injuste et tout ça. » Ou alors, on utilise cette réalité-là pour pouvoir avoir une espèce de feedback de comment on fonctionne, de où est-ce qu'on a des failles, où est-ce qu'on a des endroits où ça s'accroche, où est-ce qu'on peut gagner aussi juste en connaissance de soi, pour au lieu de subir en fait nos automatismes, ben, pouvoir avoir prise dessus de plus en plus. Et donc, si je dois résumer, c'est ça. Puis après, il y a plein d'axes de travail, que ce soit au niveau du mental, que ce soit au niveau du corps, que ce soit, enfin, peu importe. Se connaître, c'est connaître toutes les parties de soi. C'est connaître comment je fonctionne dans telle situation, mais aussi comment mon corps fonctionne. Quand j'ai fait trop de kettlebell pendant un mois, j'ai mal à tel endroit et je sais pourquoi et du coup je peux adapter en faisant autre chose. Bref, de se connaître vraiment dans le détail. Et voilà, donc l'hygiène de vie pour moi c'est ça. Et évidemment, ça implique d'avoir une certaine discipline de se fixer des objectifs et de poser des moyens pour y arriver. Donc des sous-objectifs avec des échéanciers, des plannings et des trucs comme ça. Et puis, super outil pour ça, c'est le bullet journal qui permet désencombrer un peu l'esprit, de virer un peu toutes les merdes qu'on a en tête et de garder un peu notre axe en fait. Et ça marche pas mal. Voilà.
Bien. Dans ce cas-là, en tenant compte de tout ça, c'est quoi pour toi la journée idéale ?
Eh ben, la journée idéale, c'est la journée où j'arrive à rester dans mon axe, justement. C'est la journée où je me rappelle que ce qui m'arrive peut être une source d'information. C'est la journée où, au lieu de chouiner parce qu'il fait pas beau, ben, je me rends compte que la météo est pédagogique, quoi. Et ça dépend de moi, la journée idéale. Ça dépend pas des circonstances extérieures, ça dépend de comment je les regarde et de ce que j'en fais. Voilà, donc ma journée idéale en termes de discipline pour moi, ça va être de me lever, de faire ma cohérence cardiaque, un peu de méditation, de boire mon café, d'avoir un peu du temps pour pratiquer et tout ça. Mais si j'ai pas le loisir de faire ça, ça me permet de me rendre compte que je suis attaché à ma discipline, que je suis attaché à mes pratiques et que au final, il faut que je reste souple aussi, etc. Et que je peux déplacer, que je peux réorganiser. Bref, c'est... La journée idéale, elle dépend de ma posture. Si je dois résumer, c'est ça, quoi.
D'accord. Du coup, tu parlais de pratiquer. Tu parles des arts martiaux, dans ce cas-là.
Pas que, mais quand je parle de pratiquer, je parle de tout ce qui fait partie de ma discipline et qui me permet d'évoluer. Donc les arts martiaux en font partie, comme la méditation en fait partie, comme la préparation physique en fait partie, comme le jeûne peut en faire partie, comme plein de trucs peuvent en faire partie, comme le repos aussi en fait partie, comme d'écrire tous les jours ce que je vais faire pour le lendemain en fait partie. Bref, il y a 10 000 trucs. Donc pratiquer pour moi, c'est me donner les moyens d'évoluer. En gros. Et évoluer, ça veut dire de gagner en conscience, en connaissance de moi-même, mais en conscience de qui je suis, de qui les autres sont, de comment ça fonctionne. Et donc, automatiquement, de sortir des automatismes et de gagner en liberté. d'être, plus être dans la réaction, mais de pouvoir créer, de pouvoir innover, de pouvoir faire autre chose que juste action-réaction de manière automatique, innée ou alors acquise, mais acquise culturellement et sans vraiment avoir le choix au final. Voilà, donc en gros, pratiquer pour moi, c'est devenir libre.
D'accord. Quels sont les choix que tu as fait dans ta vie qui font que tu es aujourd'hui toi ?
Eh bien, ce choix-là, le choix de profiter de l'adversité pour gagner en conscience, d'utiliser tout ce qui passe, en fait, hein, aussi les sentiments positifs, la joie, l'amour, les machins, le soulagement, mais c'est des sources d'information aussi qui permettent de savoir que ah ouais, là on est dans quelque chose qui est bon pour nous, et d'essayer de comprendre ce que c'est, pas juste se laisser pousser par le courant, mais bien avoir un peu une idée d'où on va et de pourquoi, et etc. De gagner en conscience, de gagner en connaissance de moi-même, d'arriver à de plus en plus comprendre et connaître comment je fonctionne et comment les autres fonctionnent, ça m'a permis de moins flipper quand je faisais des choix un peu radicaux, de poser des activités professionnelles qui sont un peu atypiques et qui m'ont permis de faire des choses intéressantes et d'avoir plein d'adversités encore à utiliser pour évoluer. Enfin, voilà. Il y a vraiment, je pense, une décision à un moment donné qui s'est prise et puis qui s'est pas prise en une fois, ça a été une espèce de cercle vertueux qui s'est mis en place, mais où j'ai décidé que je voulais pas subir, en fait. Je voulais pas juste je sais pas comment dire, je voulais pas juste aller à chouiner et à vouloir que le monde s'arrange à ma sauce et que tout le monde soit conforme à ce que je voudrais, mais au contraire d'accepter la réalité telle qu'elle est, d'accepter que je maîtrise pas tout, d'accepter que mon vécu dépend essentiellement de moi et de ma posture, d'accepter que je suis pleinement et totalement responsable de tout ce qui m'arrive, en tout cas de la manière dont je le vis. Voilà un peu tout ça, en fait. C'est pas c'est extrêmement difficile à mettre en mots, ce truc, et je peux le redire de plein de manières différentes et ce sera encore pas complètement juste, mais si je dois le dire encore différemment, j'ai décidé un jour que je serais plus esclave de mon ego. Si je dis ego, j'entends par là mon ego, c'est la somme de mes automatismes, en fait. C'est tout ce qui est automatique à l'intérieur de moi. Que ça soit d'avoir froid et de frissonner, c'est un automatisme, mais de trouver une meuf jolie et d'avoir envie de me la faire, c'est aussi un automatisme. De penser que si les gens m'aiment pas, c'est grave, ça aussi c'est un automatisme. C'est des acquis ou des innés qui sont à l'intérieur de nous et qui nous mettent en mouvement, qui nous font bouger sans qu'on le choisisse, en fait. Et ça sert à survivre à la base, c'est une espèce de programme de survie pour l'espèce qui est super important et qui fait qu'on tient la route dans le sens où on s'éteint pas en tant qu'espèce, mais ça prive de liberté en même temps, ça gouverne nos vies, et j'ai décidé à un moment donné que j'avais plus envie d'être gouverné par ça, j'avais plus envie de subir mon attachement au regard des autres, j'avais plus envie de subir j'en sais rien, ma presque peur panique de pas avoir assez à manger deux ou trois fois par jour, etc., etc. Et puis j'ai travaillé là-dessus, en fait, petit à petit, méthodiquement. Je me suis mis à jeûner, je me suis mis à faire des à d'acclimatation au froid. Quand j'étais au Québec, je me suis mis à juste globalement redevenir un peu le capitaine du bateau, quoi. Et voilà, c'est l'idée générale.
Donc finalement, il s'agit d'aller volontairement dans l'inconfort pour ensuite réussir à quelque part contrôler ce sentiment d'inconfort lorsqu'il arrive et qu'on ne le contrôle pas, justement.
Ouais, mais c'est aussi utiliser l'inconfort. En gros, arriver à se créer des micro-catastrophes au quotidien par un effort de discipline, par une espèce d'effort de volonté, et de se dire « Ok, je subis un peu une situation qui me plaît pas. Comment je peux faire pour en tirer le meilleur ?» De se l'imposer à soi-même, déjà, c'est plus facile, mais on peut aussi du coup choisir sur quoi on travaille, quoi. Je peux décider, j'en sais rien, là en ce moment j'en avais marre parce que j'atteins ma cote d'alerte jeans, parce que à force de me détendre et d'être bien avec ma nouvelle chérie, j'ai commencé à reprendre du bide, et du coup ça m'a gavé, j'étais pas bien dans mon jean, et donc j'ai commencé à faire du jeûne intermittent depuis une semaine, quoi. Et ça me permet d'être mieux dans mon corps, et puis en même temps ça me permet de travailler, de retravailler cette notion de j'ai peur de mourir de faim, peut-être que c'est dangereux de sauter un repas et machin, et qu'est-ce qui va m'arriver, une espèce de part animale qui panique dès qu'on loupe une tartine, et de voir tout le monde manger et de pas manger avec eux socialement, ça vient picoter aussi, etc. Et du coup tout ça me fait travailler, en fait, ça me détend, ça me permet d'être plus libre. Et après, le soir, je mange et je bois des canons et je suis content et je me rends compte que c'était pas si dramatique. Et voilà, c'est un exemple d'adversité un peu auto-imposée pour être plus libre. Il y avait... voilà, je pense que ça répond à la question, on va essayer de faire plus court, mais... L'idée est là, ouais.
D'accord. Quel est le pire conseil qu'on ait pu te donner, du coup?
Fais attention à toi. Dans le sens de soigne ton confort, prends pas de risques, ose rien, reste bien à ta place, quoi. On a tellement tendance à enfermer les gens dans du confort et de la sécurité de nos jours que je trouve que ça devient carrément louche. À mon avis, c'est bien, en fait, de se frotter un peu au monde. C'est bien un peu d'être dans l'inconfort et dans les trucs un peu durs, parce que concrètement, nos sociétés, on est hyper riches, on est hyper bien soignés, bien nourris, bien éduqués, bien tout, bien coucounés, bien protégés et bien privés de liberté aussi. Moi, je trouve que d'oser sortir de ça, d'oser se dire ouais, ok, c'est pas grave, je vais peut-être me blesser, je vais peut-être je sais pas quoi, mais je vais apprendre, en fait. Je vais aller me balader dans l'Himalaya. Peut-être que je vais choper une maladie, peut-être que je vais avoir le mal des montagnes, peut-être que je vais avoir des ampoules aux pieds et trouver que c'est trop dur, et peut-être que si, peut-être que ça. Et du coup, quoi, je reste chez moi, ou alors je me bouge et je vais découvrir le monde et j'apprends sur moi-même. Et des spécialistes du développement personnel passent leur temps sur leur canapé et qui font rien, personnellement, je trouve ça extrêmement louche, quoi. Donc, pire conseil qu'on m'ait jamais donné, ça a été fait attention à toi, mais avec cette intention de me priver d'expérience de l'adversité qui est si enrichissante, en fait.
D'accord. Du coup, le meilleur conseil qu'on t'a donné
gens me donnent pas beaucoup de conseils en général. Mais
ils osent pas.
C'est pas qu'ils osent pas, mais mes parents m'ont pas trop donné de conseils. Ils m'ont beaucoup dit ce qu'il fallait pas que je fasse et ils m'ont beaucoup laissé patauger. Et c'était bien en fait de me laisser patauger. Je pense que un des meilleurs conseils que j'ai reçu, c'était pas vraiment un conseil, c'était une observation, c'était assume ta part de responsabilité. Dans toute situation, il y a une part qu'on contrôle pas, il y a une part qui est extérieure à nous, mais il y a une part qu'on contrôle et sur laquelle on a de l'influence, premièrement. Et même si on subit une situation complètement, la manière dont on la regarde, elle nous appartient. On peut se faire un drame avec un truc chouette. Exemple, hier, mon gamin, on se pointe à la boulangerie, et puis moi, croyant lui faire plaisir, je l'amène à la boulangerie, et lui, ce qu'il voulait, c'était un panini de l'autre boulangerie. Et il a pété un scandale parce qu'il était pas content, parce qu'il allait pas pouvoir avoir son panini, quoi. Et je fais, ben ok, alors, on se barre, quoi. Il y aura rien du tout, en fait. Tu préfères rien du tout, ou tu préfères la pizza de cette boulangerie, quoi. Qui est une super boulangerie, pour le coup. Et il a fini par être content d'avoir sa pizza, mais il a fallu d'abord passer par l'étape de « Ok, t'auras rien du tout. » Et on fonctionne tous pareil, on veut tous avoir ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, au final. Quand il nous arrive un truc qui est moins bien que ce qu'on attendait, ben on chouine. C'est notre tendance naturelle. Mais ça, c'est aussi un automatisme pour le coup. Donc ça a l'air facile quand on parle d'un panini versus une pizza chez un gamin. Mais quand il nous arrive un gros truc, on se fait jeter d'un boulot qu'on aime bien, on se fait rejeter, on se fait larguer, on tombe malade, peu importe. C'est des plus gros trucs, mais la mécanique est la même. À l'intérieur de nous, il y a une part qui accepte pas la situation et qui résiste et qui chouine et qui se fait un petit malheur en plus de l'événement relou, quoi. Et on tricote plein d'injustices et plein de ci, plein de ça. Mais en fait, la vie, elle est vraiment injuste et à la fin, on va vraiment tous crever. Donc, entre temps, est-ce que vous avez envie de chouiner ou est-ce que vous avez envie de kiffer? C'est simple, en fait, comme question. Et tout le monde dit, ouais, ben, j'ai envie de kiffer, donc ils ont qu'à me rendre mon boulot. Ben non, en fait, si tu veux kiffer, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux kiffer, il faut d'abord accepter que t'as plus le boulot et d'assumer. Donc je reviens sur ce mot-là, assumer ta responsabilité. Déjà dans le fait de t'être fait jeter de ce boulot, parce que il y a sûrement des trucs qui n'ont pas parfaitement fait. Donc à partir du moment où t'assumes et t'acceptes que t'es pas parfait, ben, tu peux apprendre et faire du meilleur taf dans le boulot suivant, ou avoir des meilleures relations ou je sais pas quoi, ou alors toi-même te barrer parce que c'est un taf de merde aussi, c'est pas mal. Assumer que ta manière de voir l'événement et de te raconter l'histoire de l'événement, ben, elle va te rendre heureux ou malheureux. Assumer que ben ouais, à partir de là, faut que tu bouges ton cul pour faire autre chose. Assumer, en fait, simple. Sauf que c'est comme tous les trucs de cet ordre-là qui consiste à assumer et à prendre ses responsabilités, ben on n'a pas envie. On n'a pas envie parce que ben ça demande un effort et ça demande de vraiment se bouger et ça demande quelque part d'humilité, etc., etc. Mais ça vaut vraiment le coup, en fait. Ça vaut vraiment le coup. Ça nous rend libre, ça nous rend joyeux, ça nous rend heureux, ça nous rend puissant et ça nous rend ça nous permet d'évoluer, en fait.
D'accord. Assume. Es-tu convaincu par quelque chose que les autres autour de toi, en général, vont considérer comme une folie?
Ouais. Carrément. Ça déjà, le fait d'assumer, c'est vraiment les gens kiffent pas du tout. Ce genre de liberté, en fait, que ça donne, ça libère un peu des notions de morale en mode bien, mal, binaire, manichéenne à la con, quoi. Et du coup, ça, les gens sont souvent horrifiés quand je dis que ben, l'amour, ça peut vraiment foutre la merde. Et qu'on peut, être aveuglé par des bons sentiments et faire vraiment du mal à cause de ça. Que des fois, de péter un genou, c'est la seule chose à faire et du coup, c'est bien. Et que pour autant, même si j'éclate la gueule d'un type, c'est pas parce que je suis en colère ou que j'ai de la haine contre lui, c'est juste que c'est la seule manière de débloquer une situation, par exemple. Quand je dis débloquer une situation, j'entends évidemment par là, je suis en danger ou un proche est en danger, etc. etc. Donc, la violence c'est mal, ben non, ça dépend. L'amour c'est bien, ben non, ça dépend. L'attachement, le si, le ça, enfin, on se permet en fait, à force de prendre conscience de nos mécanismes et de ceux des autres, de se libérer petit à petit. Carcan de c'est bien, c'est mal, il faut pas, etc. etc. Et du coup, ça heurte en fait ceux qui sont encore à l'intérieur de ça. Ça les dérange profondément parce que ça implique qu'ils d'un coup se retrouvent à devoir prendre des responsabilités, à devoir penser par eux-mêmes, bouger leur cul, assumer, etc. Et donc, y a vraiment quelque chose de que ces gens-là. Que beaucoup de gens en fait considèrent comme une folie dans tout moi, quoi, dans tout ce que je crois, de tout ce en quoi je crois quasiment. Et pour autant, étonnamment, quand ils savent plus quoi faire, ils se tournent vers moi et ils me demandent conseil ou ils viennent faire des coachings. Parce que d'un coup, ils se rendent compte que leur modèle fonctionne pas. Et ils voient que le mien, en tout cas, au moins pour moi, il fonctionne. Et que du coup, ils se demandent comment ça se fait. Et voilà. Et du coup, ben, ils ont la mauvaise idée de venir en coaching et de me demander mon avis. Et en général, ça pique fort parce que ça implique de renoncer à un truc inconfortable, mais qu'on connaît, pour se retrouver dans une situation confortable mais qu'on connaît pas. Alors, j'entends par confortable du vrai confort et non pas de l'illusion du confort parce qu'il y a rien qui bouge. Je parle de vrai confort dans le sens d'être bien partout, d'être libre en fait. Le confort pour moi, c'est pas étaler du cuir sur toute la surface de la planète pour pas se faire mal aux pieds, c'est de se scotcher du cuir sous les pieds pour avoir pas mal là où on va, quoi. Et donc d'être libre, de pas dépendre de l'avancement des travaux d'étalage de cuir sur toute l'étendue de la surface de la Terre pour être bien. Enfin voilà. Mais bref, ma gueule.
D'accord. Est-ce que tu pourrais nous partager trois mots, trois idées, trois concepts, valeurs qui animent ta vie?
Ouais. Cette notion de gagner en conscience, donc la conscience, de gagner en liberté. De fait, automatiquement, parce que plus on est conscient, plus on est libre. Et je dirais l'amour, mais l'amour pas au sens de bons sentiments ou d'amour romantique ou je sais pas quoi. L'amour, c'est bien plus vaste que ça. C'est pas un sentiment, l'amour. C'est un état d'être, c'est un état de conscience, c'est une posture dans la vie. C'est être conscient de soi-même et de l'autre et rester en relation et rester au contact. De pas rejeter l'autre parce qu'il est différent, de pas rejeter l'autre parce qu'il est dérangeant. Au contraire, de le remercier d'être différent et de dire ouais, putain, grâce à toi, je me rends compte que putain, j'ai encore beaucoup d'orgueil. Ou grâce à toi, putain, je me rends compte que j'ai encore envie de faire le justicier sur la route, et quand je vois des connards pas mettre leur clignotant et freiner au dernier moment comme ça vient de se passer à l'instant, ben, je me rends compte que j'ai encore envie de contrôler le monde entier pour qu'ils conduisent bien, parce que ce serait plus mieux bien, il y aurait moins d'accidents et moi je serais le maître du monde qui dans sa toute puissance arrange les problèmes de l'univers, quoi. Ce serait génial. Et là je viens de me rendre compte que j'ai encore un petit truc de ça qui reste. Et pourquoi? Ben, parce que automatismes, quoi. Donc voilà, Il y a... Dans le mot amour, pour moi, il y a vraiment bien plus qu'un sentiment amoureux ou d'affection ou ça. Il y a toute une démarche, quoi. Il y a toute une démarche.
Est-ce que tu peux nous donner un livre, peut-être, que tu nous conseillerais?
Ouais, carrément. Il y a un livre qu'Aurélie m'a fait lire il y a pas très longtemps. C'est Le guerrier pacifique de Dan Millman. C'est une approche, c'est un récit un petit peu romancé, avec un petit peu d'ésotérisme et de petits trucs qu'on comprend pas, histoire d'attirer l'attention du lecteur, je pense. Mais il y a surtout un bon résumé de cette démarche dont je parle, qui consiste à gagner en conscience et en liberté par la discipline. Et c'est vraiment... quand j'ai lu le bouquin, je me suis rendu compte qu'on parlait exactement de la même chose. Si on regarde, au final, toutes les grandes traditions... au moins toutes les grandes traditions ésotériques, dans le sens de... Contrairement aux traditions exotériques, qui sont en gros les grandes religions et tout ça, dans chacune des grandes religions, il y a une branche un peu ésotérique, dans le sens où elle est un peu plus fermée, ou plutôt restreinte, et qu'elle ne convient pas à tout le monde. Qui parle de la même chose, en fait, qui parle de se connaître soi-même pour gagner en liberté, qui parle de discipline réelle, qui parle de tout ça, et ça a été très beaucoup diabolisé, ces trucs, et on s'imagine des rituels à base de graisse d'enfant et de sacrifices et de je sais pas quoi, mais en fait la vraie vérité c'est que c'est des voies de des voies très très difficiles, en fait. C'est des voies très exigeantes, beaucoup plus que d'avoir la structure à l'extérieur de soi qui nous dit quoi faire et qui nous oblige à qui nous contiennent, en fait, et qui nous permettent pas de enfin qui nous donne pas l'obligation de se bouger vraiment pour gagner en conscience et prendre ses responsabilités, et voilà. Donc dans Le guerrier pacifique, on parle vraiment d'une une sorte de voie spirituelle, mais c'est jamais vraiment nommé, c'est jamais vraiment expliqué. Il y a juste quelques petites touches de trucs qui ont l'air un peu magiques dans le délire, et si on fait abstraction de ça, je pense que c'est vraiment un bouquin, c'est quasiment un manuel assez utilisable, en fait, pour se mettre on se met un peu dedans, déjà, c'est pas mal.
D'accord. Donc on revient encore et toujours à cette notion de j'assume, dont tu parlais tout à l'heure.
Ouais. Ouais, j'assume. Si je veux arriver là où je veux aller, ben il y a des étapes qui sont incontournables. Je dois découvrir et avoir conscience de chacun de mes automatismes. Je dois apprendre à m'en détacher pour pouvoir ensuite les utiliser. En gros, ça résume un peu l'approche. Et si on fait ça, si on joue vraiment le jeu, ça marche. Mais il faut le faire. Il faut vraiment s'y coller pour de vrai, quoi. C'est pas juste de la théorie. Il faut par la pratique tous les jours, par l'action, par les choix qu'on fait. Et toutes les fois où on contredit notre ego et qu'on s'autorise pas à juste plonger dans notre automatisme et se laisser couler dedans, à chaque fois c'est une petite victoire sur soi-même qui permet d'être libre. Parce que la liberté, au final, c'est pas faire ce qu'on veut quand on veut. La liberté, c'est choisir. La liberté, c'est choisir, et donc tous nos automatismes qui, eux, ne nous laissent pas le choix, ne nous rendent pas libres. Donc si pour vous la liberté c'est de pouvoir niquer tout ce qui bouge, c'est pas de la liberté, en fait, parce que oui, vous êtes libre de faire l'action que vous voulez, mais cette action-là, elle est guidée par un truc qui n'est pas votre choix, en fait. Qui n'est pas un vrai choix, qui est juste une pulsion. Et du coup, vous avez l'impression d'être libre. Et ça m'est arrivé plein de fois, donc je dis, nous, on a l'impression d'être libre dans ces moments. Mais en vrai, on ne l'est pas. On est dans une sorte de déni. Où on ne voit pas que notre impression de liberté cache une non-liberté intérieure. Cache le fait que, on a l'impression de décider parce que le monde extérieur ne nous contredit pas, mais en vrai, ceux qui décident, c'est nos pulsions et c'est tout. Donc voilà.
Discipline, assumer.
Voilà, discipline, assumer. Gagner en conscience, gagner en liberté. Prendre ses responsabilités, vraiment quoi, toutes ses responsabilités, et aussi une fois qu'on a vraiment pris nos responsabilités, on peut commencer à porter que ce qui nous appartient, en fait. Si on porte tout ce qui nous appartient, ce qui est déjà énorme, on peut aussi commencer à entrevoir l'idée qu'on peut faire porter aux autres leur responsabilité à eux, ne pas porter à leur place. Faire porter aux autres, c'est une mauvaise formulation, c'est juste ne pas les porter. Après, ils choisissent s'ils veulent porter leur responsabilité ou pas. Mais de ne pas compenser, ne pas porter les trucs qui appartiennent aux autres, les automatismes qui appartiennent aux autres, le manque de conscience qui appartient aux autres. C'est leur problème à eux, en fait. Et quand on se contente de porter nos valises à nous, c'est à la fois plus lourd et plus léger, j'ai envie de dire. C'est dur au début et puis ça devient de plus en plus facile de porter ses propres valises parce qu'on les allège au fur et à mesure. Et de ne pas porter celles des autres, déjà c'est se rendre service à soi-même. Mais souvent, bien souvent, c'est de leur rendre service à eux aussi, parce que tant qu'on compense pour leur déni et leur inconscience et leurs problèmes et leur non-envie de s'assumer, on leur permet pas d'avoir le feedback et l'adversité qui va leur permettre de bouger et de prendre conscience des trucs. La douleur et les trucs désagréables, c'est vraiment utile, en fait. Ça nous oblige à bouger et du coup, de protéger les autres de leur adversité, c'est pas toujours leur rendre service. Évidemment, je parle des adultes, hein, les gamins, c'est autre chose. Évidemment, faut protéger les enfants de leurs conneries et porter plein de trucs à leur place tant qu'ils sont pas capables de le faire. Mais l'idée, c'est justement de leur apprendre petit à petit à porter leur valise à eux et leur petit sac à dos et d'être content comme ça, quoi.
J'ai encore une question. Tu parles du coup de cette discipline, de ce cadre qu'on s'impose à soi-même en prenant conscience de nos actes et de nos manières de fonctionner. Mm-hmm. Du coup, est-ce que pour faire un petit parallèle à ce que tu fais dans ta vie en général, est-ce qu'on peut dire que cette discipline-là, ce cadre-là, c'est la première forme de survie ?
C'est la première forme de vie. Tout ce qu'il y a avant ça, c'est de la survie. Nos automatismes, etc., et d'éduquer nos automatismes à ce qu'ils soient plus adéquats, c'est de la survie. Ça sert dans l'urgence, ça fonctionne. Mais ce genre de discipline-là permet justement d'utiliser la survie pour faire de la vie, quoi. Ou de la sur-vie, de la super-vie. Et du coup, la distinction entre la survie et la vie, elle est de plus en plus obsolète pour moi. Ça fait déjà un paquet d'années que je dis que ce qu'on apprend en stage de survie peut carrément nous servir dans la vie de tous les jours. Et c'est un autre exemple, en fait, que de survivre à l'adversité, de survivre aux événements hyper durs de nos vies. Ça va nous permettre d'acquérir des compétences, des connaissances, de la conscience de soi qui va être utile pour le reste de notre vie après. Quand on est dedans, en général, on s'en rend pas compte. On a juste envie que la douleur s'arrête. Mais une fois que c'est passé, on se rend compte à quel point ça a été libérateur, à quel point ça a été formateur, à quel point on a gagné en liberté, en conscience, et en joie de vivre après, de manière durable, quoi. Donc, c'est pas intuitif, mais c'est vraiment bien de se rendre compte à quel point la merde qui nous tombe dessus est souvent une bénédiction. C'est dur à accepter sur le moment, mais après, avec le recul, quand on fait ce qu'il faut pour en profiter, c'est carrément vrai, quoi.
D'accord. Du coup, tu as un parcours vachement large dans les arts martiaux, et on dit souvent dans les arts martiaux japonais que justement, c'est pas juste un art qu'on va pratiquer sur le tatami, mais c'est bel et bien un art de vivre. Ouais. Finalement, ce que tu me dis là, c'est un petit peu la même chose. La survie en vie sauvage, par exemple, n'est pas juste un état de fait en vie sauvage, ça devient un art de vivre.
Ouais. Ouais, et puis la posture qu'il faut avoir pour survivre à un accident d'avion dans la pampa amazonienne, ben. C'est la même qui va faire que qu'on survit à notre vie, quoi, qu'on arrive à être bien dans nos vies. En fait, ça revient toujours au même, peu importe de quel côté on se tourne, j'ai envie de dire, c'est le même truc qu'on a à travailler en tant qu'humain, quoi. C'est, y a des trucs que je contrôle, il y a des trucs que je contrôle pas. J'arrive à faire la part des choses, et ce que je contrôle, ben, je me sors les doigts du cul et je le fais, quoi. Et de pas s'imposer des carcans sans que ce soit choisi. Autrement dit, de pas être esclave de ses automatismes, de ses conditionnements, de ses peurs, de ses colères, de ses modèles culturels, de tout plein de trucs en fait qui sont des outils. Ça veut pas dire qu'il faut tout jeter, ça veut juste dire qu'il faut choisir d'utiliser le bon outil au bon moment. À des moments, je mets ma petite chemise et je me retiens pour péter et je parle moins fort et je me tiens bien. Quand je passe un entretien d'embauche ou ça m'arrive pas souvent, mais quand je vais à un mariage et que je veux que les mariés qui m'ont invité se sentent bien pendant leur mariage. Et je me tiens à carreau pour eux, quoi, mais c'est choisi en fait. Et à d'autres moments, c'est utile pour les gens de faire l'inverse. Exemple, l'autre jour, en stage, j'avais une nana qui avait mal au ventre, elle avait une espèce de mal de bide incroyable, et puis elle avait le ventre plein de gaz. Et voyant qu'elle se tordait, mais qu'elle essayait de rester digne et tout, moi j'ai lâché un énorme paix, mais genre super sonore, et j'ai fait ah putain, ça fait du bien de pouvoir péter dans la montagne. Et elle m'a regardé en mode mais t'es mon héros, quoi, parce que d'un coup elle a rigolé et elle a commencé à péter et son ventre s'est dégonflé et elle allait mieux après et elle a pu commencer à participer au stage. Donc c'est des outils en fait, c'est des outils, c'est tout, c'est rien d'autre que ça, quoi. Bref.
D'accord. Est-ce que tu peux terminer en nous rappelant peut-être où est-ce qu'on peut te trouver sur internet?
Ouais. Il y a sur Trovolution, trovolution.fr, sinon il y a mon site perso qui est davidmanis.com. Enfin voilà, je pense que ça fait à peu près le tour. Pour les stages de survie, ben c'est 7.org, donc c'est EETS.org, et puis sinon, ben vous tapez mon nom dans Google, vous allez trouver.
D'accord, très bien. Juste pour vous rappeler, histoire d'être sûr qu'on a bien l'information, est-ce que tu peux vite fait faire un point sur le stage antifragile que tu vas faire et nous expliquer peut-être en quoi c'est nécessaire aujourd'hui d'être antifragile dans la société actuelle?
Ouais, ben le stage antifragile, en gros, il consiste essentiellement à faire ce que j'ai raconté là, c'est-à-dire utiliser l'adversité et apprendre à utiliser l'adversité pour évoluer. Et c'est carrément exactement le sujet. Pendant une semaine, on fait des ateliers et on voit des pratiques qui servent à faire ça, quoi.
D'accord.
Donc voilà, ça résume bien. Si vous avez pigé un peu ce que j'ai raconté, ben, c'est l'essence du stage antifragile depuis dans son ensemble.
D'accord, stage que tu organises donc avec
Aurélie. Avec Aurélie, ma chérie, et puis elle a vraiment un apport super intéressant, notamment au niveau de la médecine chinoise et de plein de trucs, qui est top, quoi. Donc, les premiers stages, je les ai donnés tout seul, et puis après, avec une pote qui s'appelle Kita, qui est thérapeute, et là, avec Aurélie, en plus, on est vachement complémentaires, donc c'est super cool. Et puis, en général, les gens, ils pensent que c'est moi le méchant, puis après, ils voient ma chérie et ils comprennent que c'est moi le gentil.
Très bien. Ben, écoute, je te remercie encore une fois d'avoir accordé du temps pour ouvrir un trait. Et voilà, merci beaucoup pour tout ça.
De rien, avec joie.
Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'ai une petite annonce à vous faire. J'avais commencé à vous parler de cette école d'aventuriers. Eh bien, la première formation vient de sortir et on parle du froid. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes du genre à être un peu frileux, à avoir froid aux extrémités, ou que vous voulez simplement augmenter votre zone de confort de 1 degré, 2 degrés, de quelques degrés, et ainsi faire des économies sur le chauffage et prendre moins de temps pour choisir quel pull vous allez mettre, eh bien vous pouvez retrouver cette formation sur courirentrail.fr, donc dans l'onglet École des aventuriers. Voilà, elle va être disponible lundi, donc dans 3 jours. Donc si vous êtes un fan hardcore, que vous écoutez le podcast dès qu'il sort, eh bien, il va falloir prendre notre mal en patience. Mais sinon, ça devrait déjà être disponible. Sur ce, je vous dis à très bientôt et hop la guys, les aventuriers!